Merci beaucoup Arnaud pour cette présentation fine et claire de la ligne de crête qui est tenue, visant à, qu'on l'aura tous bien compris, à une insertion harmonieuse par un accompagnement et surtout pas une mission dans les affaires des systèmes de France. Tu évoquais donc effectivement le soutien aux initiatives interreligieuses. Alors nous, on n'est pas une initiative interreligieuse, mais c'est vrai que dans le même package, si je puis dire, c'est vrai que l'IHEMR a été soutenu dès le début par Bernard Cazeneuve et le BCC, parce que participant évidemment à cette dynamique d'intelligence sur le fait religieux et sur la laïcité. Et donc merci d'avoir rappelé l'importance de ces éléments-là dans le dispositif global en France. Je vais me permettre de poser une question qui prend peut-être du champ par rapport au dernier point que tu as évoqué, avant de vous laisser, comme à l'habitude, la parole. Simplement, est-ce que en termes numériques, quels sont les problèmes qui vous remontent le plus en termes numériques? Et je me disais, est-ce qu'il y a des points qu'on vous soumet ou sur lesquels vous êtes sec? Des éléments sur lesquels on dit zut, on n'a pas d'éléments de réponse. Donc deux points quoi. Qu'est-ce qui numériquement est le plus vous occupe le plus et sur lesquels vous êtes le plus sollicité, sans que ce soit problématique d'ailleurs ni difficile. Et à l'inverse, qu'est-ce qui peut vous. Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes scotché, où il y a des zones d'ombre dans le droit, par exemple, qui vous
Alors,
empêchent
je
de
vais
répondre?
commencer par la deuxième question. Du fait du portrait que je vous ai tracé, c'est vrai que ces questions-là, faits religieux, laïcité, neutralité, toutes les directions des affaires juridiques des ministères ne sont pas forcément armées pour les affronter. Ceux qui se coltinent la matière historiquement, très clairement, l'éducation nationale, je dis pas qu'on n'a pas d'échange, au contraire, on en a, mais c'est du tiens, regarde ça, qu'est-ce que. Voilà, c'est du dialogue, c'est pas de la sollicitation. Mais il y a ceux qui se sont jamais, qui n'avaient jusqu'à présent jamais eu à se coltiner cette question-là. Tout le monde de la jeunesse et des sports aujourd'hui est administrativement éclaté, mais enfin, ça reste une grande famille. Et la vie associative, c'est des gens qui, pendant des années, alors en plus, vie associative, fédération sportive, on a une forte tradition d'associations laïques. Bon, le fait religieux, il fallait faire la jeunesse pour que les jeunes n'aillent pas au scout. Il fallait, bon, c'était, il y avait une tradition militante là-dessus, donc le fait religieux se posait pas. Et c'est vrai que ces services-là, alors d'abord au niveau territorial, hein, d'abord ça remonte, c'est des questions qui nous remontent par exemple par les préfets délégués à l'égalité des chances, qui nous disent, tiens, au fait, la DRJSCS nous a posé cette question, SADA, je peux pas répondre. Bon, nous, on est armés sur le cœur du réacteur. On est armés sur la loi de 1905 et ses suites. On a à peu près. On est à peu près armé pour répondre sur les relations, parce que les préfectures ont pendant très longtemps été des lieux d'accueil massif du public. Donc les questions de relations au public et à l'usager, c'est des questions sur lesquelles les choses étaient claires, on pouvait répondre. Mais nous, notre rôle, c'est d'être ressource pour le périmètre intérieur élargi. Et si on étend un petit peu, on va dire pour le régalien. Mais sur les autres, on peut être sec, mais comme au départ, tout le monde peut être sec, parce que en fait, on est sur une matière sur laquelle le corpus est relativement limité. Et où en fait, on est, dans la plupart des sollicitations, sur de l'étude de cas. Alors, l'étude de cas, quand on nous pose un cas, un bureau juridique, la première chose qu'on fait, c'est d'aller consulter la jurisprudence. Bon. Il n'y a pas forcément de la jurisprudence surtout. Et il y a surtout pas, et, y a pas, et quand il y a de la jurisprudence, c'est pas forcément de la décision de Conseil d'État ou de cours administratif d'appel bien établi. On a plein de décisions de première instance de TA dont on voit bien qu'elles sont parfois hasardeuses, on va dire. Donc, c'est là où on peut être sec. C'est là où on peut... Parce que en plus, comme on ne connaît pas forcément la matière, l'écosystème du cas d'espèce, on va peut-être avoir parfois du mal à répondre. Mais je pense que Jean-Louis Bianco a dû vous le dire. C'est quelque chose qu'on partage complètement avec l'Observatoire. D'ailleurs, on s'échange parfois nos questions. Et d'ailleurs, on reçoit pas mal de questions en doublon. C'est que on est là pour essayer de faire une réponse qui soit le démontage du problème. C'est-à-dire que énormément de questions qui nous arrivent sous l'angle de la laïcité, et encore plus depuis 4-5 ans où ce terme a repris un usage et un mésusage parfois quasi hystérique, en tout cas hystérisé, ça c'est certain. On dit, mais attendez, posons la situation et regardons comment il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, très souvent, effectivement, si on en arrive à des situations juridiques, on va être sec parce que on va manquer de recul, on va être obligé de dire bah, laissons le juge trancher ce cas d'espèce. Mais si le problème est désamorcé en amont, on n'aura pas cette confrontation au droit. Donc voilà, ça peut être un cas où on est sec. Il y a des cas où on est sec, mais parce que c'est très compliqué à gérer. C'est le poids de la tradition dans certains corps et des fêtes liées à ces traditions dans certains corps. La quantité de courriers qui nous arrivent à l'occasion des saints patrons, de la gendarmerie nationale, des sapeurs-pompiers et des cérémonies liées à ça et de la participation, hein, font effectivement, c'est un fond de sauce relativement régulier et récurrent pour nous. Et je vous avoue mon incrédulité à constater qu'on peut encore avoir des gens qui, pourtant, quand ils valident un programme diffusé, sont normalement des officiers généraux, ou en tout cas des officiers supérieurs, comment on peut encore valider dans un programme officiel public, dans le déroulé de la matinée, la cérémonie religieuse inscrite noir sur blanc dans le programme de la matinée. Et de fait, le problème n'est pas Sainte-Barbe ou d'autres, c'est pas le sujet, parce que dans la pratique, on sait tous, il y a des moyens tellement pour arriver à associer ceux qui ne sont pas catholiques à cet instant de fête. Mais comment on en arrive encore à avoir parfois la messe dans le programme officiel? Comment on en arrive encore parfois à avoir le message aux hommes lu par l'officier commandant pendant l'office religieux et non pas pendant le moment festif qui a lieu 2 heures plus tard aux messes? Voilà. Mais ça, de fait, et ça fait le fond de sauce des associations qui se disent laïques, parce que je refuse que ceux qui se disent laïques soient les seuls à être laïques dans ce pays. Mais voilà, ça c'est typiquement. Et je vous avoue qu'on est un peu sec parce que, bon, pas non plus. Voilà, le droit bête et méchant, ça aboutit à une impasse. Et voilà, ces associations-là, on ne peut pas leur répondre qu'en droit et on va pas leur dire, mais écoutez, soyez un peu, faites preuve d'intelligence. Eux, ils sont là justement pour appuyer là où ça fait mal. Donc voilà, typiquement aussi des sujets sur lesquels on peut être sec. Chaque fois qu'il y a un contournement de la loi qui est inventé, on peut... Mais voilà, on n'édite pas, on n'est pas le Conseil d'État, on n'édite pas des avis juridiquement contraignants, ne fait pas non plus des décrets canoniques ni des fatwas, donc voilà, on n'est pas dans cette situation-là. Après, qu'est-ce qui nous arrive le plus? Ben alors ça, le courrier des associations dites laïques qui maintenant sont parties dans la chasse à la moindre croix qui a été édifiée au bord d'une route post-1905, enfin, ça devient complètement délirant. Enfin, on sait tous qu'en Bretagne, en Normandie en particulier, on a construit des insignes religieux sur le domaine public après 1905. Bon, très bien. Moi, je ne comprends pas que des gens puissent aujourd'hui écrire en demandant qu'on fasse passer un bulldozer qui ferait le tour de la Bretagne et de la Normandie pour raser tous les calvaires et toutes les statues. Qu'aujourd'hui, on empêche des choses de se construire. Ok.
La statue de Jean-Paul II à Puermel.
Ah, la statue de Jean-Paul II à Puermel, oui, voilà.
C'est oui,
magnifique cas. Magnifique cas.
Très beau cas.
Qui nous a bien occupé. Heureusement que le Conseil d'État a été saisi et que Jean-Marc Sauvé, dans sa grande sagesse, a dit le droit. Mais j'arrive toujours pas à comprendre comment il a décomposé la statue, mais enfin, il l'a décomposée. Donc, voilà.
Merci.
Bonjour, Domitille Arrivé, je suis journaliste. Vous nous avez beaucoup parlé du Conseil du CFCM, vous ne nous avez pas parlé de l'AMIF. Est-ce que c'est une arme secrète ou...
Ben non, puisque je ne suis pas général en train de conduire une bataille. L'AMIF... Alors déjà, on choisit pas nos interlocuteurs, donc quand des interlocuteurs s'organisent, on les reçoit. Ce qui a pu prêter à confusion sur le sujet de la MIF...
Pardon, on n'a peut-être pas tous...
Alors, Association musulmane pour l'islam de France, qui est une association qui s'est créée pour justement trouver un moyen de financement, des ressources de financement indépendants et transparents. À la tête de ce projet, il y a un consultant, essayiste, ancien conseiller ministériel, Hakim El-Karoui, qui a rédigé des rapports sur le sujet pour l'Institut Montaigne, et qui, à ce titre, a fait partie du brainstorming initial quand le président de la République a décidé de lancer une réflexion à vocation législative, mais pas que, sur l'organisation, le régime des cultes en France. Donc parce que quelqu'un avait écrit des essais, était à la table du brainstorming et fondé une association, on a considéré que on était volontairement allé le chercher pour en faire l'acteur de ce qu'on voulait faire. C'est quelqu'un qui a su très bien percevoir l'air du temps, parce que les pistes qu'on a tracées sur le financement, c'est pareil, on a aussi constaté, observé, écouté. Et donc, il a eu le talon de mettre en forme ce projet d'association de financement du culte musulman. En s'inscrivant, en prenant la roue, s'il y en a qui font du vélo, en prenant la roue de la réflexion du président de la République. Donc, il donnait le sentiment, et il en a joué, je pense, il y a trop de personnes qui ont dit qu'il se prévalait d'eux pour que ce ne soit pas vrai. Donc voilà, et en même temps, pour créer une dynamique objectivement positive. Donc non, c'est pas un bras armé. Après, dans les grands échecs du CFCM depuis 16 ans, c'est bien la question financière qui est en un. Enfin, il y a plein, la question financière est en un. Le CFCM aujourd'hui, c'est 30 000 euros de budget par an. 10 000 euros versés par chacun des trois États de l'islam consulaire via leur fédération. C'est un demi-permanent qui cours de CDD reconduits en contrat de ci, contrat de ça, voire parfois bénévole quand les trucs sont vraiment secs. Le CFCM n'a, en 15 ans, pu financer aucun projet, financer aucune initiative, simplement parce qu'il n'a pu collecter aucun fonds. Pour une raison qui renvoie à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le CFCM, c'est d'abord la coalition des fédérations et que chaque fédération veut garder la caisse chez elle. Sa caisse. Parce que sa caisse, c'est un instrument de pouvoir à un moment donné. Quand vous pouvez subventionner une association, vous créez de la fidélité. Donc, avoir une structure qui arrive avec un projet de collecte de fonds, de générer des ressources propres, qui seraient gérées de façon transparente et affectées hors du prisme des chapelles des uns et des autres, oui, c'est bon, on peut s'en réjouir. Après, si c'était le bras armé, on aurait trouvé le moyen, par un biais ou par un autre, certainement pas par une subvention, ça c'est évident, mais on aurait bien trouvé un moyen pour qu'il y ait une gentille fée qui dépose un peu d'argent pour faire démarrer la machine. Pour l'instant, on a une équipe qui s'est constituée. Karoui a visiblement agrégé autour de lui entre 50 et 100 personnes de tous horizons, y compris des figures religieuses plus que respectables et respectées comme le recteur de la mosquée de Bordeaux, Tarek Obrou, par exemple. Mais pour l'instant, il n'a toujours pas réussi à amorcer la pompe financière. Donc, qui est une forme de joie à voir apparaître quelque chose qui veut avoir un fonctionnement transparent, autonome, équilibré, libéré de l'influence des États étrangers, etc., etc., et qui disent que la priorité c'est la formation et le salariat, etc., bien sûr qu'on s'en réjouit. Mais si c'est un bras armé, il est bien faible. Donc voilà, donc... il y a eu du cheminement, mais maintenant il faut qu'il construise son modèle. Enfin, il faut qu'il mette en œuvre le modèle économique est bon. Maintenant, il faut qu'il soit réalisé.
J'ai deux questions. Tu as parlé des relations extérieures à travers les imams détachés. Y en a-t-il d'autres et comment se répartissent-elles entre le bureau et le conseiller religieux des affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères. Et ma deuxième question, existe-t-il des structures plus ou moins équivalentes ou au moins comparables dans des pays occidentaux, notamment européens ?
Alors, déjà, les relations internationales, elles se font toujours, de toute façon, elles ne se font jamais sans... C'est toujours en binôme avec le conseiller aux affaires religieuses, et il est toujours, c'est normal, il a rang d'ambassadeur, chef de mission. Donc c'est essentiellement ces trois états-là. Après, bien évidemment, des relations un petit peu qui peuvent exister, même si elles sont assez faibles pour nous, avec le Saint-Siège. Mais on a quand même une ambassade qui gère ces relations-là. Après, il peut nous arriver de discuter avec tel ou tel état. Pour des dossiers pas ponctuels. Moi, j'avais rencontré et discuté avec le précédent ambassadeur de Russie en France lors de la construction de la cathédrale du Quai Branly et au sujet du dossier de la cathédrale du Quai Branly. Mon prédécesseur était allé en mission en Égypte pour rencontrer les responsables de la Hazara pour parler formation des missions du culte. Je me suis rendu moi-même en Arabie Saoudite il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, pour rencontrer le ministère du Hajj et voir comment on peut continuer ensemble à renforcer on va dire, la sécurité des consommateurs, parce que le pèlerin est d'abord un consommateur, enfin, d'abord un consommateur, du point de vue des États, nous, ce qui nous intéresse, c'est le client d'une agence de voyage qui se fait parfois escroquer, voilà. Donc, moi, je le prends sous l'angle consommateur. Encore une fois, l'apport spirituel du grand pèlerinage dans la vie personnelle du pèlerin, c'est pas mon sujet. Et d'ailleurs, ils ne viennent pas me le raconter. Par contre, quand ils sont bloqués à l'aéroport de Marignane comme l'été dernier, le secrétaire général qui fait l'intérim du préfet à Marseille s'est nous appelé pour dire qu'est-ce qu'on fait de nos 300 pèlerins, pour le coup, bien nommés. Voilà. Donc, c'est très ponctuel. Dialogue européen, sinon. Alors, comme toujours, d'abord franco-allemand, un peu franco-belge, mais ad hoc, hein, ça peut être la formation, justement, comment on aborde la question de la formation des imams, comment on aborde la prévention de la radicalisation. Le sujet de la prévention de la radicalisation et de la dimension religieuse de la radicalisation a beaucoup fait avancer les discussions entre partenaires européens, plus France-Europe du Nord qu'avec les autres, pas grand-chose avec les Ivoiriens, avec les Italiens, et très compliqué avec les Espagnols, mais bon, pour des tas de raisons. Donc oui, des structures équivalentes, avec deux problèmes, pas toujours, voire pas dans la majorité des cas, une seule structure. Pas toujours placé dans l'homologue, pas toujours placé au ministère de l'Intérieur. Le bureau qui ressemble le plus au nôtre est notre homologue belge. Il est placé au ministère de la Justice. Alors, le plus proche, en même temps, eux, ils ont un système de culte reconnu, donc forcément, ça change aussi un peu la nature du dialogue. Mais ils sont placés à la justice. En Allemagne, nous avons deux interlocuteurs. Nous avons les cultes sous l'angle social, sociétal, au secrétariat à l'intégration. Je parle du niveau fédéral, parce qu'en plus, en Allemagne, imaginez que l'essentiel relève en plus, pas du Bund, mais des Länder. Donc, l'intégration, qui pendant très longtemps a eu le lead sur ces sujets, parce que la question musulmane en Allemagne, c'était d'abord la question de l'intégration des Turcs, et que donc nous, avec notre laïcité, notre républicanisme, encore entendu il y a deux mois, notre islamophobie latente, nous ne pouvons rien comprendre, on ne s'en sortira pas, et donc on ne peut rien faire ensemble, parce que de toute façon on n'est pas sur le même logiciel. Ça pique la première fois, après on s'y fait, ça passe à autre chose. On leur prouve au contraire qu'on peut faire des choses ensemble. Et le secrétariat d'État à l'intérieur, qui s'est aussi emparé du sujet, sous l'angle prévention de la radicalisation. Donc voilà, ça, c'est ça aussi qui peut compliquer les choses. Mais c'est vrai que dans le dialogue avec le partenaire européen, l'absence de, non seulement de culte reconnu, ça n'y en a pas partout, mais l'absence de subventionnement des cultes et de possibilité de subventionner les cultes, ça complique pas mal les choses pour construire des politiques communes. C'est pas tant le logiciel, je peux démentir le fait que la laïcité française, elle n'est pas incomprise, en tout cas en Europe. Le CAR vous parlera, ou son adjoint vous parlera peut-être de parfois des joutes oratoires dont nous sommes les victimes dans les instances internationales, mais ça c'est autre chose. Mais nos partenaires européens, globalement aujourd'hui, ils comprennent comment on fonctionne. Les Néerlandais aujourd'hui, ils fonctionnent quasiment comme nous. Ils y sont arrivés très tard, mais aujourd'hui les Néerlandais, ils ont une interdiction de subventionnement des cultes qui est aussi stricte que chez nous. Donc on commence à apprendre les choses. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément, je vais vous dire franchement, et ça restera entre nous, voilà, après on n'a pas forcément envie de construire une politique envers les musulmans sur le logiciel néerlandais. qui pour le coup a un petit peu oublié, eux aussi, hein, c'est pôle intégration, pôle sécurité, mais le pôle sécurité, il a complètement pris la main sur le dossier. Essayons quand même, malgré ce que les accusations dont nous sommes victimes, essayons d'avoir quand même la double approche. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Si, si, au-delà.
Moi, j'aurais une question à vous poser concernant la formation des imams, bon, qui est un sujet qui est très actuel. Comment, en tant que chef du bureau central des cultes, vous voyez l'implication ou non de l'État sur ce sujet brûlant? Bon, bien évidemment, il y a la question de laïcité qui fait qu'on est quand même très, très limité au niveau des marges de manœuvre, mais est-ce que l'État a un rôle à jouer dans ce dossier?
Oui. Quoi? Je réponds clairement oui. Alors, quel a été notre rôle? Notre rôle, il a été, quand ce dossier est monté, alors il est monté plusieurs fois, mais vraiment monté, Cazeneuve nous l'avait vraiment mis en quasiment en priorité une. L'enseignement supérieur nous a à l'époque pas suivi. Donc on s'est retrouvé vraiment à piloter la réflexion. Il y a eu un rapport de chercheurs qui était comment formellement commandité par Bernard Cazeneuve et Najat Vallaud-Belkacem, mais donc on a fait le travail intellectuel, on a fait la séparation, etc., avec des choses, et on est arrivé à produire un schéma où on est capable aujourd'hui de distinguer ce qui est de la formation profane, pour faire simple, de la formation confessante. C'est non seulement, alors il y a des matières pour lesquelles c'est très simple, on ne va pas faire de théologie à l'université, mais par contre on peut faire du droit coranique à l'université, par exemple. On fait d'ailleurs de la finance islamique à l'université, on fait etc. Donc faire la part, le bloc sciences humaines strict, et c'est ce qu'on a fait en créant les fameux diplômes universitaires de formation civile et civique, et on a gagné, je pense, le combat intellectuel de dire que un cadre religieux aujourd'hui, dans sa formation, il doit avoir un bloc de sciences humaines et de droit public de base. Il y a ensuite les matières partagées sur lesquelles on a vu comment l'université pouvait s'y impliquer si elle le veut. Parce que là, on a un truc qui est absolument monstrueux, c'est l'indépendance des universités et l'indépendance de l'universitaire. Les deux ayant valeur, enfin l'une a valeur constitutionnelle, protégée, et l'autre quasi constitutionnelle. Donc de toute façon, on ne fera rien faire à l'université française qu'elle ne veut pas faire. Donc on a un schéma théorique avec des gens qui disent « Banco, on y va ». Et puis après, on a la part, le champ de la formation proprement religieuse. Cette part-là, évidemment, l'État ne pourra pas, l'État ou les universités, enfin, la personne publique, la puissance publique ne pourra pas l'assumer en France. Et s'il y a des projets européens dans ce sens-là, parce que parfois ailleurs c'est possible, l'association de la France sera de toute façon toujours complexe là-dessus. Nous, il n'y a qu'un champ par lequel on peut l'aborder, c'est la question des aumôneries. On peut par contre non pas faire construire le contenu de la formation religieuse des aumôniers, ça, même pour les aumôneries, c'est interdit, liberté de culte. Mais par contre, on peut financer de la formation religieuse des aumôniers si les aumôneries décident de s'emparer de ce dossier et de considérer que c'est une première étape vers la formation religieuse des cadres religieux. On peut créer un modèle où il y aurait une subvention pour la formation des aumôniers qui permettrait de faire tourner des établissements qui ensuite pourraient s'ouvrir à d'autres qui par contre seraient eux des usagers payants et non subventionnés, en tout cas par la France. Donc voilà, on a fait ce travail, ce schéma, et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation actuel s'est par contre complètement emparé de ce sujet, et donc lui aussi réavance. Il va y avoir dans le pôle Condorcet qui va sortir entre Aubervilliers et la Porte de la Chapelle à partir de l'année prochaine. Donc la future, on a fait plein de Sorbonne nouvelles, mais bon, le futur grand campus sur Sorbonne de Paris Nord. Il y aura probablement un pôle autour des sciences religieuses, vu du point de vue universitaire, qui va y apparaître. L'enseignement supérieur a décidé de relancer son soutien à l'EPHE, qui est très active sur le sujet. Donc, là-dessus, voilà, on a des schémas. Après, on ne pourra pas tout faire. On a une place, on pourra faciliter des choses, on pourra rassurer des gens, ça aussi c'est très important. Donc, la première fois qu'un universitaire rencontre un responsable d'institut de formation des imams, besoin d'être rassuré. Mmh. Voilà. Donc on a les Marocains qui sont en train de finaliser un projet qui devrait s'implanter sur le périmètre de la grande mosquée d'Evry, et qui eux sont prêts à travailler avec l'université d'Evry. Donc là les choses vont se faire. A contrario, on a les Turcs qui veulent créer un institut de formation des imams à Strasbourg, avec toute la puissance politico-religieuse qu'a le régime Erdogan aujourd'hui. On n'a pas eu besoin de dire non. L'université de Strasbourg, elle a fermé les portes, fermé les fenêtres, les volets, débranché les téléphones. Hein. Donc voilà. Donc c'est au moins les Turcs ont mis un peu de temps, mais ils ont compris qu'ils ne feraient rien avec l'université de Strasbourg. Nous, on leur a juste dit, nous ne pouvons accompagner un projet d'institut que dans son cheminement vers l'université, parce qu'un institut proprement religieux, l'État n'a pas de raison d'accompagner un institut proprement religieux. Donc, écoutez, trouvez un partenaire universitaire et puis revenez nous voir. Évitez de mettre une deuxième claque à l'interlocuteur. Voilà, la réponse était, l'université a le courage d'aller de monter au front là-dessus. Mais voilà, donc c'est un rôle de conception, de distinction. C'est-à-dire toujours ramener les choses dans la bonne catégorie. Non, on ne va pas se mettre à l'université française, l'enseignement supérieur est laïque. Donc de toute façon, cette chose est claire. Les matières enseignées à l'université, elles sont régies par une inscription dans les recrutements d'enseignants, par des matières qui sont définies par le Conseil supérieur des universités. Donc de toute façon, on ne va pas inventer des choses qui ne peuvent pas avoir lieu. Et on ne forcera pas. Mais par contre, voilà, arriver à se dire que, puisqu'on n'a pas la main sur la formation d'un imam dans sa partie proprement confessante, si à côté de ça, il va à la fac et qu'il croise un cours de philo, ça sera pas mal. S'il croise un cours de lecture des textes qui lui apprend l'approche critique des textes, ça sera pas mal. S'il croise un cours qui met... de réflexion sur histoire et dogme. Se dire que quelqu'un qui dans l'université française acquérera les outils de l'analyse historico-critique, qui va donc considérer que il n'y a la vérité révélée, c'est du dogme, mais que dans le domaine de l'enseignement, il y a la manière dont cette vérité révélée se frotte à la réalité, à l'analyse. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui, en Arabie Saoudite, l'enseignement de la philosophie est toujours interdit à l'université. Donc, et l'Arabie Saoudite n'est plus. Voilà. Et pourtant, l'Arabie Saoudite bouge, mais vous voyez, il y a toujours. Si, et là où ça n'est pas interdit, parce qu'au Maroc, il y a de la philo, mais dans l'Institut de formation des imams de Rabat. Qui accueille les étudiants français, il n'y a pas de cours de philo. Les étudiants imams algériens à Constantine et à Alger, ils ne font pas de philo. Donc là, si on a des étudiants... Voilà, on va avoir des... C'est petit à petit ces choses-là qu'il faut cranter, parce que l'enjeu, il est simple. C'est-à-dire, on ne va pas résoudre ni le terrorisme, ni la radicalisation par la formation des imams, ni par la structuration de l'islam de France, ni tout ce qu'on veut. Par contre, moi, quand aujourd'hui, ils sont plus très nombreux, vraiment plus, mais quand quelques responsables religieux disent encore « mais arrête de nous bassiner avec ta prévention de la radicalisation, aucun terroriste n'est sorti d'une mosquée française ». Alors déjà, je leur rappelle que c'est vrai sur l'histoire récente, mais il faut... Enfin, groupe des buts de Chaumont, il fréquentait quand même une mosquée. Bon, on va pas se balancer ça, c'est pas le but de faire du ping-pong, mais il y en a pas sur la partie récente. Mais moi, je leur retourne leur argument. Je dis, ben oui, ils sont pas... Pourquoi il y en a pas? Parce que ces jeunes-là, ils ont tous comme point commun d'avoir considéré que la mosquée du coin, c'était un non-lieu, qu'ils n'avaient aucun intérêt à y aller, que l'imam de cette mosquée, il n'avait rien à leur apporter, qu'une fois sur deux, l'imam de la mosquée, il ne pouvait même pas discuter avec lui puisqu'il n'était pas francophone, que s'ils allaient lui poser une question de jurisprudence religieuse, de comportement, qu'il demandait un avis, il allait leur répondre au regard de ce que lui avait vécu dans sa vie ailleurs, mais certainement pas à Paris, à Bobigny ou à Lyon. Et que donc, en fait, oui, parce qu'ils ne connaissent pas les mosquées. Ils se sont radicalisés sur Internet, oui, mais la première fois où ils sont allés poser une question religieuse sur Internet, ils ne sont pas allés chercher une question radicale. La première fois, ils ont fait ce que Mohamed Bajrafi l'appelle « cher Google ». Ils sont allés poser la question qu'ils ne pouvaient pas poser à l'imam, parce qu'ils ne voulaient pas la poser à l'imam. Ils sont allés la poser sur Google. Et quand vous posez une question de jurisprudence islamique sur Google, si vous n'allez pas sur la page 3, vous n'avez que des réponses fondamentalistes. Aujourd'hui, en français. Donc, qui se dit « ma réponse sur Google, je vais la chercher en bas de la page 3 ». Aucun de nous ne fait ça. Bon. Donc, après, là-dessus, il y a la réponse. On ne se radicalise jamais, je ne sais pas si CIPDR est venu ou pas encore.
Non, pas
encore. Ça n'est jamais que Internet. Il y a toujours à un moment une rencontre humaine. Ouais. Mais la rencontre humaine, c'est un réseau social que vous avez peut-être constitué sur Internet. Mais effectivement, ils n'auront jamais croisé l'imam. Ah oui, bah c'est... Oui. Les mains propres et ceux qui n'ont pas de main, hein, c'est exactement la même chose. Donc, si demain, on a des imams formés, respectés, écoutés, présents dans les quartiers, qui ont des choses à dire aux jeunes, qui sont des interlocuteurs des jeunes, il commence à y en avoir. Ils vont pas, bien évidemment que ça ne va pas être un coup de baguette magique qui va faire disparaître la radicalisation, mais ce qui va disparaître, c'est l'évidence de la réponse fondamentaliste. Intellectuellement, ce qu'ont gagné les fondamentalistes musulmans avec le pognon saoudien en premier depuis un demi-siècle, c'est que l'islam n'a jamais été une religion univoque. Chaque question posée, religieuse, sociale, pratique, elle avait des réponses multiples, variables. Et il était évident pour chaque personne qui posait une question que la réponse pour le marchand de légumes du Caire, c'était pas la réponse pour le père de famille à Bagdad ou ailleurs. Et a fortiori aujourd'hui, société européenne et autres. On a un logiciel qui a formaté une idée essentielle, c'est une question, une réponse universelle et permanente, avec en plus cette tonalité, avec en plus la tonalité fondamentaliste. Si on arrive à casser ce truc-là, et si on arrive à remettre de la diversité, il n'y a pas de fatalité à ce que des jeunes gens et des jeunes femmes aillent forcément chercher la pire réponse. Certains iront la chercher. Mais là, on aura, parce que la radicalisation, ça n'est que du multifactoriel, c'est sûr que si on fait que ça, on aura toujours les problèmes sociaux, on aura toujours les problèmes familiaux, on aura toujours les problèmes de relégation, on aura toujours les problèmes d'identité, etc. etc. Mais si on désamorce l'étincelle religieuse qui est systématiquement présentée aujourd'hui, on aura fait quelque chose. Donc c'est quelque chose qui est à vraiment du moyen terme, qui est très ambitieux, qui dépassera, qui ne sera pas une réponse égale, mais c'est un élément essentiel de la réponse. Donc voilà pourquoi on travaille là-dedans, et pourquoi nous, on encourage à avoir des solutions qui sont construites en Europe par des acteurs européens. Il ne s'agit pas de dire, voilà, on va pas tomber dans le piège, en tout cas, et Muriel Domenech au CIPDR, on y a veillé. Il ne s'agit pas de faire un contre-discours uniforme. Si demain apparaissait dans le débat public un islam libéral, moderniste, pleinement européen, mais que ce discours-là apparaisse comme porté par les pouvoirs publics, de toute façon, il serait mécaniquement discrédité. Donc il faut que ce truc-là réapparaisse. Mais on sait qu'en plantant des graines, il va aussi y avoir des conservateurs qui vont sortir. On le voit dans toutes les religions. Mais au moins, ce sera quelque chose qui sera construit, intégré dans la réalité. On n'est pas là pour dire qu'être conservateur, c'est être con et qu'il faut rééduquer tous les réacs. C'est pas le sujet. Nous, le sujet, il est sur un corpus idéologique qui ne prend en compte qu'un discours planté à la fin du premier millénaire dans des sociétés qui n'ont rien à voir et dont on veut faire croire que c'est une vérité permanente, intangible et absolue. Voilà, c'est ça, le schéma, il est là. Donc, on doit, et je pense qu'on peut faire les choses et qu'on peut y trouver un sens collectif qui embarque des universitaires, des acteurs associatifs et autres.
Oui, alors c'est une question qui porte sur le projet de réforme de la loi de 1905. Je pars sur autre chose.
Je peux y passer.
Oui, je suis journaliste. Alors ce projet de réforme semble être abandonné pour le moment, mais j'aurais aimé savoir quel a été le rôle du Bureau central.
Vous en savez plus que moi si vous pensez que, voilà. Que le projet est abandonné, parce que moi je ne suis pas au courant que le projet est abandonné.
Il nous semble avoir entendu que le projet était en tout cas ajourné. Voilà. Je voudrais savoir ce que le Bureau central des cultes, quel est son rôle dans la réflexion autour de cette réforme, et s'il ne s'agit pas d'une réforme de la 1905, vers quelle autre direction pourrait-on aller pour...
Alors ça, c'est une très bonne question, parce que j'avoue que ça, effectivement, les raisonnements par l'absurde. Alors, j'ai essayé de répondre avec le minimum de langue de bois. Je pourrais vous faire un truc aussi
vers cette table. Pourquoi y a-t-il autant de langue de bois autour de cette question-là, d'ailleurs? C'est vrai qu'on a du mal à comprendre un peu où ça en est et pourquoi c'est si compliqué éventuellement de partir dans d'autres directions.
Les objectifs en la matière du président de la République, il les a clairement exprimés. Alors c'est comme son fameux discours sur la laïcité. Alors après, on pourrait faire un débat sur la forme. Est-ce qu'il vaut mieux faire un vrai discours plutôt que d'inviter les gens à piocher dans 4 ou 5 discours et à collationner les choses? Mais les idées, elles y sont. Sur la question de la modernisation du régime des cultes, les lignes politiques, il les a tracées, il les a redites, il en a même reparlé d'une d'entre elles lors de sa conférence de presse il y a quelques semaines. Il y a une idée qui est que là, il ne peut pas y avoir, il ne doit pas y avoir d'instrumentalisation politique de la religion dans le pays. Première porte d'entrée. Alors, après, quand vous faites une réflexion, en fait, une traduction législative, bien évidemment, vous ne faites pas en France une loi qui dispose pour le culte musulman ou pour le culte évangélique ou pour tel ou tel culte. Vous faites une loi pour les cultes. Alors après, on en arrive à la question de l'acceptation générale. Donc, parce que justement la loi française protège, au point de départ, l'État de la religion de l'État, il ne peut pas y avoir d'association religieuse qui ait des finalités politiques, a fortiori, d'action violente. Donc, cette dimension-là, elle peut se caractériser par de l'influence, de l'entrisme d'État, de puissance, de structure étrangère. Donc ça, le président l'a dit, il nous a demandé de réfléchir aux moyens de garantir, de renforcer l'indépendance des associations, les moyens pour renforcer l'indépendance des associations, pour garantir leur gouvernance et pour être en mesure de s'assurer de la transparence de leur comptabilité. Après, il a aussi eu l'occasion de dire, puisqu'il s'est exprimé successivement devant les musulmans, devant les protestants, devant les communautés juives, puis devant les responsables de l'Église catholique, il a eu aussi l'occasion de dire combien, pour lui, c'est le premier président qui utilisait le terme de foi, tout bêtement, hein, dans un de ses discours, il accepte de se coltiner cette réalité-là, il ne tourne pas autour, de considérer que la dimension religieuse, en tant qu'elle faisait partie de la personnalité d'une partie conséquente de la population française, et que la dimension religieuse, elle a forcément une expression collective. Au final, la grande originalité de la liberté de culte, c'est que c'est à la fois une liberté individuelle et une liberté collective. Il y a aussi sa grande complexité. Et que donc, c'est son invitation aux catholiques à se réengager dans la cité. Donc, cette idée qu'il ne peut pas y avoir de contraintes, entre guillemets, qu'on ne peut pas faire de mauvaise manière au culte, et que les cultes doivent pouvoir vivre librement, dignement, sainement. C'est ce qui a poussé dans la réflexion qui avait été commandée, et puis c'est sorti dans la presse, et puis les cultes en ont parlé, à également réfléchir, à repenser le périmètre des recettes autorisées pour les cultes, en considérant que, grosso modo, les quêtes telles que la loi de 1905 les prévoyait, c'était pas forcément suffisant dans le monde de 2019. Donc là-dessus, nous, on a fait un travail en sollicitant d'autres ministères, qui est celui de comment on traduit de manière juridique, comment on arrive déjà à définir les moyens pour arriver à ces finalités, et ensuite leur donner une réalité juridique. Bien évidemment, je ne travaille pas de secret en disant ça, le but de la DLPAJ, ça n'était pas de faire de la loi pour faire de la loi. Donc tout ce qui peut trouver une traduction au niveau réglementaire, bien évidemment, on n'a pas. Et puis, quand c'est une direction juridique dirigée par un conseiller d'État, on est quand même assez. On a appris à être très attentif au domaine de la loi et au domaine du règlement. Donc, on n'essaye pas de faire passer dans la loi des choses qui sont du niveau décret. Donc, on est arrivé à un certain nombre de propositions qui, pour traduire l'ambition politique du président, passent par des dispositions législatives. Voilà. À aucun moment, le président de la République n'a demandé, il ne l'a jamais dit, et il a toujours dit, candidat, président, grand débat avec les intellectuels, conférence de presse post-grand débat, qu'il n'avait jamais été question pour lui de toucher aux principes structurants de la loi 1905. Bon. Alors après, de fait, il y a un certain nombre d'acteurs, de part et d'autre. Comité laïcité république et Église catholique, par exemple, qui considèrent que la loi de 1905 est une sorte de grand tout grand totem, et que toucher au titre 5, qui s'appelle la police des cultes, ou toucher au titre 4, qui s'appelle des associations pour l'exercice du culte, c'est toucher à l'esprit de la loi. Ça, c'est quelque chose que moi, il ne m'appartient pas dans ma position de jugé, une position qui est respectable. C'est une position qui peut être, en tout cas sur le titre 5, la police des cultes, irrationnelle et ubuesque dans ses conséquences. Aujourd'hui, les articles de la police des cultes, ils sont pour la plupart d'entre eux inapplicables. Ce qui relève des contraventions, on n'a pas prévu le décret. Bon, déjà, c'est mal écrit parce qu'il y a toujours des peines de police qui n'existent plus. Le nouveau code pénal, qui est d'ailleurs le plus nouveau, on dit le code pénal, hein, mais le nouveau code pénal, il date quand même de 94-92 pour ses premiers livres. Donc, on a juste mis 24 ans pour arriver à la conclusion que... Alors, les associations laïques nous disent « Oui, mais le problème, c'est pas le texte, c'est que l'État ne veut pas appliquer la police des cultes. » Je vais pas vous dire le contraire. Parce que si on a mis 24 ans pour s'apercevoir que c'était inapplicable, c'est qu'il n'y a pas dû avoir beaucoup de diligence sur la mise en œuvre de ces articles-là. Mais dès lors qu'on a la volonté politique de les mettre en œuvre, on ne peut pas les mettre en œuvre aujourd'hui. Parce que une peine, c'est un principe de droit de base, mais si demain vous commettez une infraction, vous devez savoir ce que vous encourez de façon claire et simple. Et aujourd'hui, rien dans le titre 5 ne répond à ça, parce que ce qui est contraventionnel, on n'a pas le décret derrière qui nous lie la classe, et ce qui relève du pénal, la rédaction n'a jamais été adaptée au nouveau code pénal. Donc on a des trucs qui flottent, et comme les peines ne sont pas définies, on peut même pas faire miroir au code pénal pour aller y trouver les peines qui s'appliquent. Donc aujourd'hui, on a des dispositions incantatoires. Je prends un exemple la plus connue. Il est interdit de faire une réunion politique dans un lieu de culte. Bon. Le préfet sait qu'il va y avoir. Très bien. Base de la police administrative, on prévient la commission de l'infraction. S'il peut prévenir la commission de l'infraction, tant mieux. Bon. Sinon, la réunion, elle a lieu. Bon. On peut effectivement envoyer la force publique pour faire cesser l'infraction. Très bien. Mais par contre, derrière, aucune sanction. Parce que ça n'était pas prévu. Donc, voilà, on est sur un outil et on a des gens qui nous disent « Ah, on est d'accord. Ah oui, ok. Non, mais c'est... Mais il ne faut pas toucher à la loi de 1905. Donc, on va faire une loi flottant quelque part comme ça, toute seule, qui éventuellement, si on fait un minime, et encore je ne sais même pas, non, parce que si on met un article qui dit qu'on abroge le titre 5 de la loi de 1905, on va nous dire qu'on a touché à la loi de 1905, puisqu'on aura abrogé, c'est touché. Donc même pas. Donc on va réécrire des trucs ailleurs. Enfin, c'est complètement absurde. Alors, ils nous disent, ah oui, mais alors, on n'est pas obligé de passer par la loi. Alors, effectivement, pour la partie contraventionnelle, il suffit effectivement de prendre un décret. Et pour le reste. Donc là, on est face à une logique, et alors au bout du bout, il nous dit « Oui, mais alors, pour la police des cultes, d'accord, mais pas le reste. » Bon, d'accord, pas le reste, mais en quoi le régime fiscal d'une association cultuelle, ça porte atteinte à la loi de 1905 ? Dire dans la loi que, autorisé par la loi, l'autorité des normes comptables à définir un règlement sur la comptabilité des associations cultuelles. Parce qu'aujourd'hui, si on n'autorise pas par la loi et qu'on ne justifie pas par la loi qu'il y aura un règlement comptable spécifique aux associations cultuelles, on se fera casser parce qu'il y aura une rupture du principe d'égalité entre associations. Et peut-être même, si ça arrive à Strasbourg, on se prendra en plus en conjoint la liberté d'association, parce qu'on aura considéré qu'on a porté une atteinte excessive à la liberté d'association. Donc il faut que ce soit dans la loi. Ça veut dire... Moi, je vous dis, après, j'entends la position des gens, mais ça veut dire quoi? On peut le mettre dans le code monétaire et financier. Mais elle est où, l'intelligibilité de la loi? Le Conseil d'État... Tout ce qu'on va gagner, c'est que le Conseil d'État va rendre un avis négatif sur le truc, en disant de faire autrement. Le gouvernement regardera sa version initiale. On aura l'air fin. Quand l'avis rendu public, en même temps que le texte est déposé au Parlement... toute la presse pourra découvrir, il y aura même pas, ça sera même pas la manœuvre, ça sera écrite noir sur blanc. Donc, soit il y a un problème philosophique, mais il peut pas y avoir un problème littéraire. On peut pas dire, on ne touche pas la loi de 1905, mais on va le faire en faisant plein de trucs ailleurs. Je sais pas, prendre le parlementaire et le citoyen pour un con, honnêtement. Je vous donne mon avis, mais. Après, peut-être qu'effectivement, à un moment donné, l'idée, ce sera de dire la société, le Parlement n'est pas prêt à entrer dans ce débat, parce qu'effectivement, cette loi, après, les amendements, la capacité d'amendement de l'opposition, des oppositions, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, ou la majorité. Donc peut-être qu'effectivement, l'idée, ce sera de dire on ne fait que du réglementaire. On fait du financier par ailleurs. Dans ce cas-là, si on se revoit à ce moment-là, on pourra décocher un certain nombre d'objectifs politiques initiaux. Mais en soi, c'est pas grave. Moi, c'est pas mon sujet. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que les objectifs politiques tels qu'ils a repris en ciblant sur l'islamisme politique dans sa conférence de presse, ses objectifs politiques, ils nécessitent un travail législatif. Après, à la question de pourquoi c'est si compliqué, alors, il y a une réponse factuelle, mais qu'en tant que journaliste, vous avez pu voir, je pense, sur des tas d'autres sujets. Cette majorité parlementaire très vaste, c'est une majorité qui au final se connaît pas, qui a pas forcément énormément de repères construits communs, qui s'en est pas beaucoup construit depuis. Et typiquement, c'est un sujet sur lequel les 300 et quelques parlementaires de la majorité n'ont jamais travaillé ensemble. Donc aujourd'hui, le groupe majoritaire, mais comme sur des plein de comme sur des tas de sujets, représente la diversité de la société française qu'incarne ce que les sociologues électoraux nous ont dit, l'électorat d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, et de La République En Marche aux législatives qui ont suivi. C'est-à-dire, on a dans la majorité LRM et Modem des laïcistes purs et durs, des gens qui sont prêts, qui mettraient presque dans la loi des accommodements raisonnables, des gens qui se disent... C'est quoi le problème? Ouh là là, on va pas en créer, en touchant à rien, parce qu'effectivement, ça marche plutôt bien depuis 114 ans. Ceux qui disent, ouais, mais effectivement, il faut prendre... Bon, voilà, les pragmatiques plus, les pragmatiques moins, les idéologues d'un côté, les idéologues de l'autre. Donc ça, c'est clair qu'il y a, dans le groupe majoritaire, toute cette diversité-là. Et que donc, c'est compliqué, je le comprends, pour un gouvernement, d'arriver avec un texte qui en plus va susciter donc à gauche de l'hémicycle ceux qui voudront remettre sur la table la question de l'Alsace-Moselle. Donc voilà, on sait très bien que c'est un... Et puis c'est un sujet polémique. Je veux dire, c'est les dessinateurs, je veux dire, à table en France, on parle pas de politique, pas d'argent et pas de religion. Donc, comme ça, pour le coup, on a appris à ne pas en parler, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, dès qu'on en parle, en plus... Donc, je vais prendre un exemple rapide, parce que le temps tourne, je pense que vous avez tous... mais sur la question de la capacité des associations cultuelles, comme les associations œuvrant dans l'intérêt général, à conserver et gérer des immeubles de rapport, donc de toucher des loyers. une sénatrice particulièrement impliquée dans la défense de la laïcité philosophique. Mon entretien me dit, mais comment vous pouvez faire ça? Et en fait, elle était persuadée que l'idée du gouvernement, c'était non seulement, enfin, en autorisant les immeubles de rapport, c'était derrière d'appliquer toutes les faveurs de la fiscalité qu'ont sur certains points les associations cultuelles. Il n'y a pas de taxe, foncière sur les lieux de culte. Il n'y a pas de pour les cultuels. Pas de taxe d'habitation, c'est évident, parce que normalement on n'habite pas dans un lieu de culte. Et que donc, par exemple, l'abattement de taxes foncières, on allait le mettre sur les immeubles de rapport. Qu'il n'y aurait pas de fiscalité sur les revenus issus de ces immeubles de rapport. Mais à aucun moment, dans aucun esprit, de toute façon, je pense que même si ça avait traversé un esprit, il y aurait eu le grand nuage de Bercy qui serait arrivé pour nous dire « oublie ça tout de suite ». Donc, de toute façon, mais voilà, il n'y a même pas eu besoin. C'est même pas eu besoin de s'auto-censurer. Mais personne n'avait imaginé qu'une nouvelle recette, c'était une recette qui était open bar sans fiscalité derrière. Non, c'est application du droit commun. Ni plus, ni avantage, ni désavantage. Bon, mais après, oui, pour les associations dites laïques aujourd'hui, la question des immeubles de rapport, c'est une ligne rouge, typiquement. Donc, ils sont prêts, pédagogie, ils sont prêts à la police du culte, ils achèteront, ça, c'est aucun doute là-dessus, les cultes moins. Les immeubles de rapport, les cultes le veulent et en font pratiquement probablement une condition d'acceptation des contraintes. Les associations laïques, je vous dis, c'est leur ligne rouge. Donc, après, c'est à quel moment et comment le gouvernement stabilise un texte, une majorité, et ne crée pas... tout homme politique se rappelle que l'école privée, ça a mis... première manifestation millionnaire après 68, c'est l'école privée. Sur un projet qui était un tout petit peu plus complexe que ça. Donc, le président de la République sait très bien ce que, en termes politiques et électoraux, la manière dont a été accompagnée la discussion de la loi Taubira a coûté au précédent président et à sa majorité. Donc, il n'ira pas à la fracture. Car il est convaincu que, il l'a dit, que les convictions sont un élément de lien social qui doivent être reconnus à leur place. Il ne va pas faire d'un texte autour de ce sujet un élément de fracture sociale, de politique. Donc la question aujourd'hui, elle est là. Est-ce que, donc il y a une réflexion, parce que je pense que l'Élysée et Matignon pensaient que après les consultations, les doutes seraient aplanis et qu'une voie se tracerait. A bien vu que c'était plus compliqué que prévu, qu'il y avait aussi une majorité à traiter, qu'il y avait un sujet, y compris dans les pragmatiques, des gens qui disent, mais attendez, avec l'agenda post-gilet jaune, est-ce que ça, c'est une priorité? Parce que au bout d'un moment, nos parlementaires, ils ont le droit de dormir et pour avoir... servi dans cette maison pendant 2 ans, je peux vous dire qu'un parlementaire qui dort pas, c'est pas un meilleur législateur qu'un parlementaire qui dort, loin de là, c'est même pas un meilleur débatteur, etc. etc. Donc, parlementaire, non mais je le dis ironiquement, mais c'est très sérieux. Donc je veux dire, est-ce que cette loi, avec tout ce qui va arriver, on sait qu'à l'automne, il y a un truc qui s'appelle le budget, qui complique quand même un peu l'agenda. Est-ce qu'un texte comme ça, en l'état actuel, il a sa place dans un agenda? Voilà. Ça, c'est des décisions qui reviennent à nos autorités politiques, à nos plus hautes autorités politiques, de faire un arbitrage de calendrier et de savoir comment et jusqu'où ils mènent une discussion pour faire adopter ce texte sans en faire un texte qui fracasse. Parce que je pense que, voilà, il y a aussi ce contexte-là qui est qu'aujourd'hui... Après, les questions qui ont été posées, elles sont réelles. Et les problèmes soulevés, ils sont posés. Enfin, après, voilà, ça peut être aussi un choix de ne pas faire ou de faire autrement. Mais par rapport au diagnostic qu'il a posé et qui a été posé, la réponse, elle est en large partie législative. Après, je ne peux pas vous dire les choix qui seront faits, et en l'occurrence, quand ils seront faits. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, ça va être explication, discussion, écoute. Je ne sais pas si c'est le temps qu'il faudra ou en temps donné. Et voilà le schéma. Mais bon, c'est tout le monde a été consulté, tout le monde a été écouté. Et ça a d'ailleurs eu un effet positif. C'est anecdotique. Pas forcément. Ces échanges, ces rencontres, ces dîners que Christophe Castaner avait mené à la demande du président, ça a permis, pour la première fois, d'avoir une condamnation commune. Alors c'était après Strasbourg. Je ne sais plus. Après un acte antisémite. Bref, d'avoir une condamnation de la violence à prétention religieuse, co-signé par les représentants des cultes tous ensemble, ça on avait déjà fait, mais également les obédiences maçonniques et les associations laïques. Et honnêtement, quand on les a appelés pour leur dire est-ce que vous venez, pourquoi faire, et qu'on leur a dit pourquoi c'était, on y croyait, nous-mêmes on n'y croyait pas le matin. Mais bon voilà, donc il n'y a pas de fatalité non plus. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs ne voient pas effectivement pourquoi, ce qui irait mieux en touchant à ce texte. Je pense que le problème, il est là. Pédagogie, c'est pas tant la pédagogie, c'est pourquoi c'est mieux si on fait que ne pas faire. Et là, ça sera jamais la même réponse pour les uns et les autres. Et pour les cultes, il faut accepter l'idée que cette discussion, elle part dans un contexte de méfiance. Pour les cultes, toucher à la loi de 1905, c'est forcément vouloir toucher à leur indépendance. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette question.
Comme ce fut le cas pour les DU.
Comme ce fut le cas pour les DU.
Pour certains cultes, en tout cas, c'était
le premier d'entre eux.
Oui. Merci infiniment, Arnaud.
De rien.
Merci pour ce plaisir. Cette disponibilité, ta franchise.